Annie Regon présente du patrimoine et des hommes dans Carrefour des Arts.
Bonjour, bienvenue dans ce Carrefour des Arts où nous recevons aujourd'hui Monsieur Olivier Lenoir, délégué national de l'Union Rempart, qui va nous parler du château de Montgilbert qui se trouve dans le département de l'Allier. Monsieur Lenoir, vous êtes paysagiste de formation et depuis déjà quelques années, vous êtes le délégué national de l'Union Rempart. Pouvez-vous nous dire rapidement à quoi correspond cette union ?
Oui, bonjour. Via l'Union Rempart, c'est une union de 170 associations de sauvegarde du patrimoine qui ont toutes pour objet la mise en valeur et la restauration d'un édifice, qu'il s'agisse d'un petit élément du patrimoine rural ou d'un élément du patrimoine architectural plus important, comme un château classé monument historique, par exemple.
Et c'est une union qui a été fondée par quelqu'un que nous aimons beaucoup, André Châtelain. Pouvez-vous nous parler un petit peu d'André Châtelain ?
Oui, alors donc l'Union Rempart fête cette année son 40e anniversaire, donc a été créée en 1966. Et André Châtelain, qui était à l'époque au Touring Club de France, a souhaité lancer cette association Rempart pour permettre à des jeunes, des citoyens, de prendre en charge eux-mêmes les monuments en France et à l'étranger. D'ailleurs, et de participer à la restauration d'édifices, qu'il s'agisse de monuments historiques ou de petits patrimoines ruraux. Et donc l'Union Rempart, créée par André Châtelain, a permis l'organisation de chantiers de bénévoles pour la sauvegarde d'édifices.
Alors parmi ces édifices, il y a de très nombreux châteaux forts et justement André Châtelain est l'auteur d'un ouvrage constamment réédité depuis sa création, donc qui s'appelle Château fort, et donc qui est un ouvrage qui fait le point sur, de manière synthétique, sur le château fort en France et sur aussi la manière de pouvoir comprendre comment les châteaux forts ont été construits et également comment on peut les restaurer, ce qui évidemment est très important. Alors, comme lieu d'expérimentation, si on peut dire, parmi ces très nombreux châteaux forts, il y a le château de Montgilbert qui se trouve donc dans la montagne bourbonnaise.
Oui, Montgilbert. Donc c'est une forteresse médiévale effectivement qui se trouve dans la montagne bourbonnaise, dans le département de l'Allier.
Exactement. Voilà. Alors on va expliquer un petit peu ce que c'est que la montagne bourbonnaise et le Bourbonnais, parce que généralement ça n'est pas toujours très bien situé. Alors le Bourbonnais, donc qui est devenu à la Révolution le département de l'Allier, c'est une petite province qui a une histoire un petit peu particulière parce que l'Auvergne, la Bourgogne, ce sont des provinces, des grandes provinces qui ont une histoire très ancienne que l'on connaît quand même, même hors de France, alors que le Bourbonnais, eh bien, mon Dieu, il reste un petit peu discret. En fait, c'est une petite province qui a été fondée par l'homme, par une famille, la famille de Bourbon, aux confins de trois anciennes régions de peuplement celtique, les Bituriges à l'ouest, dont la capitale était Avaricum, qui est devenue Bourges, les Éduins à l'est, dont la capitale était à Augustodunum, qui est devenue Autun, et les Arvernes au sud, donc dont la capitale était à Augustonemetum, qui est devenue plus tard Clermont. Donc une région frontalière entre trois anciens peuplements celtiques qui sont devenus trois diocèses, le diocèse de Bourges, le diocèse d'Autun et le diocèse de Clermont. Alors cette famille de Bourbon, on va la retrouver à Montgilbert. Au départ, c'était une famille de tout petits hobereaux, viguiers du duc d'Aquitaine, qui sont devenus sires de Bourbon. Bourbon étant une petite ville qui se trouve non loin de Moulins, ville d'eau, parce que le dieu Borvaux était le dieu des eaux bouillonnantes qui guérissait, dit-on, les rhumatismes. Et les Celtes, puis les Romains, aimaient beaucoup se soigner par les eaux, donc c'est devenu assez tôt une agglomération. À l'époque romaine, puis un grand château fort construit par les Bourbons, encore un. Et très rapidement, grâce à une habile politique matrimoniale, eh bien, les Bourbons sont devenus parmi les familiers des rois de France et parmi les personnages les plus importants, on peut dire, à la cour royale, eh bien, il y avait le roi. Et puis, assez tôt, donc à partir du XIVe siècle, les ducs de Bourbon sont devenus des familiers du roi jusqu'à ce que, un peu plus tard, quand même, on est sorti de l'époque médiévale. Mais il ne faut pas oublier que Henri IV, c'était lui-même un Bourbon. Et je dois rappeler que ses parents s'étaient mariés au château de Moulins en 1548. C'était un événement qui avait marqué quand même le Bourbonnais. Alors, voilà pour avoir situé le Bourbonnais. C'était un petit peu long, mais je pense que c'était nécessaire. Alors, je pense que Montgilbert n'était pas le seul château des Bourbons, puisqu'il y avait donc Bourbon, Moulins, Hérisson, Montluçon, Bussey, Billy, tout ça, c'était des châteaux des Bourbons, qui ont généralement en commun D'avoir été d'abord certainement construit en bois. Je ne sais pas si c'était le cas à Montgilbert.
Oui, on pourra en parler un peu.
On pourra en parler. Après, une construction en pierre, généralement au XIIe siècle. Et puis ensuite, au moment de la guerre de Cent Ans, souvent des aménagements supplémentaires à cause des routiers et des Anglais. Ça, c'est les généralités qu'on peut faire sur les châteaux, en général, ceux au moins que je viens de citer, dans le Bourbonnais. Alors, parlons donc plus précisément de Montgilbert et de sa situation.
Oui, alors Montgilbert, c'est effectivement à une situation un peu particulière, puisque c'est un château qui est effectivement construit à la demande des Bourbons pour en fait commander et défendre la route qui monte depuis la vallée, depuis Vichy, depuis Cusset à l'époque.
La vallée de l'Allier, donc.
Voilà, la vallée de l'Allier, et qui monte dans la montagne et qui conduit en fait vers la frontière, puisque Montgilbert est à la fois le long de cette route qui monte dans la montagne, mais également un poste frontière vis-à-vis des provinces dont vous venez de parler, c'est-à-dire frontière entre le Bourbonnais et l'Auvergne, et frontière entre le Bourbonnais et le Forez à l'est. Et donc Montgilbert est une place forte permettant de commander et défendre cette frontière et cette route.
Oui, le Forez, donc, c'est une région dont l'ancienne capitale était Montbrison. Et actuellement, ça correspond à une partie du département de la Loire, dont le chef-lieu de département est Roanne.
Voilà.
Pour situer donc en région Rhône-Alpes.
Rhône-Alpes, hein, absolument.
Et non donc, pas Auvergne.
Donc c'est vers 1250, donc sous le règne de Saint-Louis, hein, pour essayer de resituer les choses, qu'on pense que le château de Montgilbert a été construit. Alors, cette construction, on pense qu'elle a eu lieu à ce moment-là, puisqu'on n'entend pas forcément et on ne voit pas forcément d'écrit sur la construction du château proprement dit. On pourra trouver dans les archives plus tard Montgilbert. En revanche, la construction et la date exacte de sa construction et les modalités de sa construction restent relativement peu connues.
Oui, et alors le site est quand même intéressant. Enfin, la paroisse de Ferrières, la commune de Ferrières-sur-Sichon, où est implanté Montgilbert, est quand même peuplée depuis assez longtemps. On a quelques idées là-dessus.
Oui, alors... C'est une commune, effectivement, où l'habitat est connu depuis longtemps. Alors, sur la commune, on peut noter, entre autres, que le site de Glozel existe.
Bien connu des archéologues.
Absolument, existe sur cette commune, donc à quelques kilomètres de Montgilbert. Donc, le long du Vareil, après Montgilbert, on trouve Glozel. Et donc là, eh bien, on a attesté un habitat ancien, très ancien. Je ne rentrerai pas dans le débat de cette ancienneté. Mais effectivement, il y a un habitat ancien avéré sur la commune. Une autre façon d'avérer, enfin, une population ancienne, c'est que sur la colline de Montgilbert elle-même, on a trouvé dans des fouilles qui ont dû avoir lieu dans la première moitié du XXe siècle, on a trouvé une aiguière gallo-romaine, preuve en fait d'une occupation, au moins gallo-romaine, hein, de cette colline ou de cette partie de la commune.
Oui,
aiguière,
oui.
Qu'on retrouvera, enfin, qui est aujourd'hui au musée de Lyon, au musée archéologique de Lyon, exposé là-bas. Donc effectivement, une occupation ancienne. Et vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, les châteaux du Bourbonnais avaient pu être d'abord en bois, puis en pierre. Aujourd'hui, Montgilbert est une construction de pierre du XIIIe siècle. Mais on peut penser qu'il préexistait sur la colline qu'occupe le château, une construction sans doute plus ancienne, 11e, 12e, dont on trouve des traces qui sont arasées, en fait, hein, sur la cour haute du château, dont on reparlera tout à l'heure. Et on peut penser qu'il y avait une tour, hein, avec une maçonnerie pour les fondations et peut-être une construction en bois surplombant, qui préexistait au château que nous connaissons aujourd'hui.
Oui, ce qui est un cas relativement fréquent.
Tout à fait.
Voilà donc le décor qui est planté pour notre château de Montgilbert. Alors, donc, on l'a construit au XIIIe siècle. Et alors, après, comment se déroule la vie de ce château ? Alors,
peut-être une petite description pour dire un peu comment il a été construit.
Absolument.
et quelle est finalement l'image que nous en conservons aujourd'hui. Donc, le château de Montgilbert, il est construit sur une colline. Pas forcément la colline la plus haute hein, de la commune, où, mais qui permet quand même de dominer la route dont je parlais tout à l'heure, et qui a pour caractéristique, cette colline, de disposer d'une source d'eau.
Indispensable.
Indispensable, puisque en fait, ça permet une autonomie, en tout cas partielle, du château vis-à-vis, effectivement, de cette alimentation en eau en cas de siège. Hein. Deuxième caractéristique de cette colline, elle est entourée pour une moitié, si j'ose dire, sur deux de ses côtés, au nord et à l'est. Elle est entourée par un petit ruisseau qui s'appelle le Vareil, qui a creusé la montagne, mais qui rend justement le relief relativement abrupt du côté de ce ruisseau. Ce qui permet en fait une défense relativement naturelle. Et le château est construit donc au sommet de cette colline, où affleurent d'ailleurs des affleurements granitiques,
rocher, hein, oui.
Qui permettent d'asseoir en fait la construction. Montgilbert a un plan carré, hein, c'est un château carré avec 4 tours rondes à chaque angle, des courtines qui sont elles-mêmes flanquées en leur milieu d'une tour carrée, donc qui constituent en fait une défense assez classique hein, du château fort. Et puis une deuxième enceinte, une deuxième muraille qui, est assise sur le relief proprement dit, donc est plus haute du côté ouest et sud puisque le relief y est moins important, moins haute du côté où le relief est plus abrupt. Et donc, cette deuxième courtine permet de délimiter une cour basse hein, qui entoure le château haut.
Et tout ça est très lisible actuellement.
Tout à fait. Donc, il reste de très beaux restes, justement, de ces constructions, de ces maçonneries. Même si, évidemment, ce château qui est abandonné depuis à peu près la Révolution et a servi de carrière de pierre, donc il n'en reste pas énormément de choses, mais les constructions sont lisibles, les tours font encore une douzaine de mètres, les murailles également, donc on a une belle lisibilité de ce plan.
Oui, puis étant donné la nature du terrain, on voit très bien le plan, justement. On arrive à le comprendre très, très vite.
Tout à fait.
Ce qui n'est pas le cas pour tous les châteaux forts de la région. On n'est pas obligé de faire un voyage en avion ou en hélicoptère pour comprendre comment s'organiser l'espace dans ce château de Montgilbert. Alors, nous allons marquer une petite pause de quelques minutes et nous reviendrons donc au château de Montgilbert.
Canal Académie.
Balzac.
Maupassant.
Proust.
Guizot.
Chateaubriand.
Les grands noms de la littérature étudiés par les meilleurs spécialistes se retrouvent dans Au fil des pages.
En direct ou en médiathèque sur Canal Académie.
Nous retournons au château de Montgilbert, dans le département de l'Allier, avec M. Olivier Lenoir, délégué national de l'Union Rempart. Donc nous l'avons décrit, ce château, avec son plan qui est très lisible. Et nous allons parler maintenant un petit peu des hommes qui se sont occupés, si on peut dire, de ce château de manière positive ou négative. Alors, on va commencer par le commencement, par peut-être les Bourbons.
Alors, ce sont effectivement les Bourbons qui décident la construction du château hein, et qui demandent, voire qui financent une partie de la construction du château, puisque, comme l'a attesté Nicolas Fauchère, qui est un castellologue assez réputé et qui a eu l'occasion de visiter le château de Montgilbert, Monsieur Fauchère estime que jamais un petit seigneur n'aurait pu construire ce château avec ses grandes pierres de taille sur sa tour-porche d'entrée, ses herses, ses portes, etc., ses tours. Et on estime en fait que tant la cour haute et les logis seigneuriaux que les aspects architecturaux de défense attestent en fait une construction de type palatial, de type ducal, et attestent que jamais un petit vassal n'aurait pu construire ça seul, et que les Bourbons ont évidemment décidé de construire cette place forte.
Oui, on a quelques points de comparaison d'ailleurs des châteaux des Bourbons, on en connaît d'autres dans le département de l'Allier, je pense à celui de Moulins par exemple, qui présentait aussi un plan rectangulaire et qui avait des dimensions imposantes aussi. Et donc ça, effectivement, c'est un facteur qu'il faut bien prendre en compte, cette vaste surface et puis aussi probablement un personnel nombreux pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces pierres de granit qui sont quand même... Enfin, le granit ne se taille quand même pas comme de la craie. C'était quand même assez difficile à tailler.
Oui, c'est dur. C'est une pierre dure.
Oui, et solide.
Tout à fait. Alors, après cette notion de construction, en fait, il y a un deuxième aspect majeur dans Mon Gilbert tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est son adaptation à l'artillerie, et avec un personnage important qui est Rodrigue de Villandrando, qui était un mercenaire pendant la guerre de Cent Ans, et qui a occupé le château de Mon Gilbert, et dont on pense qu'il a adapté le château de Montgilbert à l'artillerie en construisant un bastion qui a permis d'avoir un élément qui permettait d'utiliser des canons dans le château, et puis permettant aussi de défendre la porte d'entrée qui était un aspect très faible dans le château de Montgilbert.
Oui, alors Rodrigue de Villandrando est un personnage que l'on retrouve dans l'histoire de nombreux châteaux de la région. On a un peu l'impression qu'il était partout en même temps. Donc c'était quand même un personnage très important qui était d'origine espagnole, comme son nom l'indique, et qui a notablement marqué l'histoire du centre de la France, donc dont celle de Montgilbert.
Dont celle de Montgilbert, puisqu'en fait, le château appartenait, au moment où Rodrigue de Villandrando est en Auvergne, est en France, le château appartient aux De Vienne, et en fait, les Bourbons confisquent ce château aux De Vienne pour le donner en gage, en fait, à Villandrando, comme reconnaissance de dette, finalement, puisque Villandrando avait prêter de l'argent aux Bourbons et que les Bourbons avaient un peu de difficulté à lui rendre tel quel.
Donc en fait, les temps étaient difficiles.
Absolument.
On est en pleine guerre de 100 ans.
Tout à fait. Donc on met en gage le château de Montgilbert, on demande aux De Vienne de le quitter et Villandrando occupe le château pendant plusieurs années.
Alors c'est donc une période troublée hein, de l'histoire du château, mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire continue. Donc la guerre de 100 ans se termine. Alors la fin de la guerre de Cent Ans, c'est important pour le Bourbonnais parce que, comme pour beaucoup de provinces françaises, en fait, la guerre de Cent Ans a permis aux seigneurs français de se rassembler autour du roi. C'est un petit peu le début de la centralisation. Il y a un changement qui s'opère. Là, bien sûr, il y aura encore longtemps des seigneurs féodaux qui continueront à vouloir, on peut dire, asseoir un pouvoir personnel, mais on se rend compte que à partir de la seconde moitié du XVe siècle, eh bien, on s'achemine de plus en plus vers la monarchie absolue, et donc c'est le cas aussi dans l'Allier. Et les Bourbons, eh bien, ils vont, comme je crois beaucoup le savent, il y aura un épisode assez triste, la trahison, entre guillemets, du connétable de Bourbon, qui n'est pas une véritable trahison. Le connétable de Bourbon avait une mère italienne, une Gonzague. Il a voulu, après certaines vexations que lui avait fait subir François Ier, mais surtout sa mère Louise de Savoie, eh bien, il a voulu, en quelque sorte, changer de camp. Il a quitté le Bourbonnais. Il est allé se mettre au service de Charles Quint, et si bien que ses biens ont été confisqués. Donc tous les biens des Bourbons confisqués en 1527 et leurs châteaux donc qui ont été en quelque sorte redistribués, d'abord confisqués par le roi, mais je ne pense pas que François Ier se soit intéressé à Montgilbert. On n'en a pas la trace en tout cas. Et donc là, on va avoir une succession de divers seigneurs qui vont peut-être pas vraiment habiter à Montgilbert, parce que le lieu est quand même un peu austère, mais qui seront au moins propriétaires.
Absolument. C'est-à-dire que, comme vous le dites, en fait, avec le rattachement du Bourbonnais à la couronne de France directement, hein, en fait, le Bourbonnais va rentrer dans une période calme et le château de Montgilbert, en tant que forteresse de défense, n'aura plus objet.
Beaucoup d'intérêt. Oui.
Donc, effectivement, ses propriétaires auront pour objectif de faire rentrer des fermages à Montgilbert, mais c'est tout, et n'y habiteront plus et demanderont à un bailli d'occuper, en fait, le château. Donc, vont succéder, effectivement, plusieurs familles, les Sautavannes, par exemple, qui vont être propriétaires sans jamais
y
occuper
venir,
le château.
Oui. Hein.
Et effectivement, le château va passer de famille en famille au gré des mariages. C'est souvent les filles hein, qui héritent de Montgilbert, un petit château qui arrive en dot. Ainsi va s'écouler le temps et le château va peu à peu à la fois perdre son intérêt militaire, va être un peu aménagé pour qu'il soit plus agréable, mais ça demeurera toujours une forteresse froide
austère
et peu habitable. Et donc, en fait, le château on va essayer d'ouvrir les fenêtres, on va essayer de mettre des cheminées là où il n'y en avait pas, mais tout ça pour finalement le bailli et non pas pour le châtelain lui-même.
Et donc, va arriver la Révolution et la vente des biens nationaux.
Oui, alors juste avant ça, peut-être un épisode. Le dernier propriétaire du château, enfin le dernier habitant du château, est le propriétaire lui-même, Jean-Baptiste Bravard d'Essa-Duprat, qui habite avec sa mère dans ce vieux château. En fait, si les riches n'y habitaient pas dans ce château, les propriétaires plus pauvres s'étaient résolus à y habiter. Et donc, Jean-Baptiste Bravard-Dessin-Duprat habite Montgilbert, mais sa mère avec qui il vit n'aime pas du tout ce château et le trouve froid, lugubre, etc. Et un jour où son fils est partie à la chasse, elle fait déchevilliers les toitures, les charpentes du château.
Ah oui,
à la première tempête, la charpente tombe, évidemment, et la famille est obligée de quitter le château. Et Jean-Baptiste Bravard-Dessin-Duprat quitte le château avec sa mère et s'installe au Maillet de Montagne, le petit village à côté où il a un château, et il deviendra le premier maire révolutionnaire de cette commune limitrophe de Ferrières-sur-Sichon. Et donc le château, à partir de là, effectivement, tombe en ruine, hein, évidemment. Jean-Baptiste Bravard-Dessin-Duprat aura d'ailleurs des problèmes avec la Révolution, et ses biens seront saisis et vendus comme bien national. Et à ce moment-là, eh bien, le dépeçage systématique du château interviendra, puisque le château deviendra une carrière de pierre, évidemment.
Comme beaucoup de châteaux forts.
Tout à fait.
Et alors là, à ce moment-là, au moment de la Révolution, il n'y a pas, comme à Bourbon-l'Archambault, un personnage pour se dresser contre cet état de fait et essayer d'arrêter, d'enrayer cette destruction.
Non, de fait, les villageois autour viennent se servir, viennent prendre les pierres de taille, viennent démonter les portes, les fenêtres, et on retrouve régulièrement dans l'architecture rurale à Ferrières-sur-Sichon des éléments d'architecture qui viennent directement du château.
Donc, c'est une période noire, là, qui commence.
C'est une période noire. Et qui va durer jusqu'à nos jours, si j'ose dire, jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle. Le château est tout de même protégé dans les années 30 au titre des monuments historiques, on en reconnaît l'intérêt. Et puis c'est en 1974 qu'une association de sauvegarde et de mise en valeur du château se crée, à seule fin d'essayer de tenter de limiter la destruction de ce château, dont on voit bien des beaux restes dans la forêt de Hêtre, et que chacun imagine pouvoir au moins maintenir, si ce n'est restaurer. Et donc l'association est créée en 1974 et organise des chantiers de jeunes bénévoles dans le cadre de l'Union Rempart dont nous parlions au début de cette émission.
Et alors depuis 1974, quels sont les travaux qui ont été accomplis ?
Alors il y a d'abord eu beaucoup de travaux de dégagement finalement, couper les arbres, la forêt poussait sur le château, poussait dans le château, donc il a fallu éliminer cette végétation, organiser des déblaiements avec un suivi et des fouilles archéologiques, hein, pour essayer de mieux lire le plan de la cour, mais aussi du bastion, etc. Donc pour voir avoir une meilleure lisibilité et compréhension du monument, et puis entamer des travaux aussi de restauration, de maçonnerie, de taille de pierre, pour consolider les courtines, pour restituer l'arche d'entrée de la porte qui conduit au château haut, de restituer également les maçonneries du bastion, pour avoir globalement un château plus lisible et puis un château qui ne tombe plus en ruine.
Et parmi les personnes qui ont été à l'origine de cette restauration, y a-t-il quelques personnes dont vous pourriez parler?
Oui, je pense qu'on peut pas parler de Montgilbert sans parler de Jean-Marie Pichon, qui a été l'un des animateurs de l'association et du chantier au milieu des années 80, et qui a eu l'occasion de faire une étude systématique des propriétaires du château et a pu écrire un livre, Montgilbert et ses seigneurs, que l'association a édité.
Oui, c'est important. En général, il y a souvent une personne qui s'investit beaucoup dans la recherche au moment où on découvre un édifice. C'est vraiment très important de mener de front la recherche sur le terrain archéologique et la recherche dans les archives. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à reconstituer le puzzle de l'historique. C'est vraiment la méthode la meilleure. Et alors actuellement, qu'en est-il ?
Alors aujourd'hui, l'association continue son action. C'est une action collective, hein, une association. Donc les membres de l'association continuent à mener à bien des chantiers de restauration du patrimoine. Donc chaque été, 3 quinzaines de chantiers sont organisés pour permettre la restauration de cet édifice.
Ce qu'on appelle des quinzaines, c'est des quinzaines de jours.
Des quinzaines de jours, oui, 2 semaines. Donc voilà. 6 semaines de chantier chaque été. Des activités d'animation aussi sont organisées. Il y a un spectacle de théâtre, de musique qui peut être organisé pendant l'été, justement pour permettre un meilleur accès du public à ce château, qu'on puisse visiter, mais aussi le voir en vie, le voir animé au travers d'une activité culturelle. Et puis, évidemment, l'association continue aussi des actions de recherche sur le monument pour mieux le connaître, pour mieux en connaître tant l'histoire que l'architecture, puisqu'il reste encore des choses à découvrir sur l'histoire elle-même du château.
Et quelles sont les conditions de visite ? On peut visiter librement ou bien
Alors, le château
faut...
est, oui, le château est ouvert au public pendant toute l'année, puisque en fait, il est visitable librement. Pendant l'été et pendant que les chantiers de bénévoles sont en cours, eh bien, les bénévoles eux-mêmes proposent des visites aux touristes qui viennent se promener dans Montgilbert et donc permettent à chacun de mieux comprendre le château. Et compte tenu que le chantier ne dure que 6 semaines, comme je disais tout à l'heure, pendant le restant de l'année, le château est ouvert, mais nous avons mis en place des panneaux d'explication qui permettent justement aux visiteurs d'avoir une visite libre, mais commentée.
Oui, de mieux comprendre l'histoire et la situation.
Absolument.
Eh bien, Monsieur Lenoir, je vous remercie beaucoup pour ces indications intéressantes. Il nous reste à évidemment inciter les auditeurs à aller visiter le site et puis également peut-être à lire les ouvrages, donc l'ouvrage d'André Châtelain sur Châteaufort, qui est toujours édité actuellement donc par conjointement l'Union Rempart et les éditions des Clés de Brouwer. Donc un ouvrage qui a été constamment réédité depuis sa sortie, il y a déjà très longtemps, mais toujours réédité, remis à jour. Et puis également l'ouvrage de Jean-Marie Pichon sur Montgilbert, donc que l'on trouve sur place, je pense, pendant la saison de fouilles et de travaux. Et puis également, donc, si certains s'intéressent à l'Union Rempart, est-ce que l'on peut donner le site internet éventuellement ?
Oui, absolument. On peut retrouver les 170 chantiers de bénévoles organisés par l'Union Rempart sur le site www.rempart.com.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Lenoir.
Merci à vous.